Radio Django. Culture.
Refuser de parvenir, c'est une idée forte qui est d'actualité dans un temps où nous vivons sous l'injonction de la réussite dans le monde où la compétition fait rage, Jean-Luc.
Oui, ce soir, Radio Django, on a envie de donner un écho à cette attitude qui est largement discutée, qui a été reprise, discutée au sein du mouvement anarchiste.
Effectivement, en 2013 et en 2014, le Centre international de recherche sur l'anarchisme, CIRA, avait organisé un cycle de discussion sur ce sujet. Vu la richesse des diverses contributions, un recueil a fait suite aux divers débats. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois membres du collectif de rédaction de cet ouvrage, Gabi, Luigi et Lorenzo. Bonsoir.
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 Soyez les bienvenus sur Radio Django. Pourriez-vous alors tout d'abord nous présenter brièvement ce qu'est le CIRA ?
Donc le CIRA, c'est une bibliothèque qui est ouverte au public donc du mardi au vendredi de 16h à 19h et qui se situe à l'avenue de Beaumont 24. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un saut. Donc c'est créé à Genève en 1957, ça fait plusieurs va-et-vient entre Lausanne et Genève, mais c'est à Lausanne, à Beaumont 24 depuis 1989. Donc c'est géré à l'heure actuelle par des bénévoles. C'est possible d'emprunter des livres et de consulter un nombre important de journaux, de brochures. On a des affiches, on a des films, des CD. Voilà, et pour plus d'informations, vous pouvez aller consulter le site internet, donc www.cira.ch, ou venir nous voir.
Parce qu'en fait, justement, ce qui est intéressant, quand on voit que le CIRA mène des discussions, organise des cycles de conférences. Et là, vous avez choisi justement de mettre en avant ce concept qui existe quand même depuis les années 20, 30, puisqu'il y a plusieurs théoriciens, aussi des praticiens, des instituteurs qui ont mis en avant cette idée de refuser d'y parvenir. Donc, pourquoi avez-vous choisi actuellement de relancer toute une discussion autour de dire que c'est un concept, une pratique, une attitude difficile d'exprimer exactement ce que c'est? Je trouve que c'est intéressant que vous expliquiez cette notion à nos auditeurs.
Bien sûr. Alors, on a inauguré ce cycle de conférences, notamment pour commémorer l'engagement de Marianne au CIRA. Un engagement de longue durée, c'était l'occasion pour nous de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'engagement militant, qu'est-ce que c'est que refuser les honneurs aussi et refuser de parvenir dans le milieu militant. Pour nous, on le comprend comme une sorte de principe d'insoumission, un refus radical d'exercer de la domination. Et c'est pas un principe qui est exclusivement anarchiste, mais on pensait qu'en mettant des mots là-dessus, ça nous permettait de comprendre des idées et des pratiques qui sont assez récurrentes, mais souvent implicites dans le mouvement anarchiste. Mais peut-être que tu peux mieux expliquer le contexte historique.
Juste avant le contexte historique, il y a aussi le fait que ce thème il a été choisi, comme tu disais, pour un peu rendre hommage à une personne qui est impliquée depuis très longtemps dans la bibliothèque et qui l'a fait vivre depuis très longtemps, mais qu'il y a aussi l'idée que c'est un thème qui à la fois était intéressant pour des anarchistes ou des gens qui sont un peu au courant de ce que défendent ces idées-là, mais que ça pouvait aussi toucher plus large, en fait, ça pouvait toucher un public un peu plus large, des gens qui se questionnent sur qu'est-ce que c'est que réussir dans ce monde, est-ce que vraiment on est obligé de marcher sur nos collègues pour gravir les échelons au boulot ou dans d'autres sphères de la vie, et que du coup ça pouvait être un sujet qui permettait aussi d'élargir un peu ce débat-là. Et il y avait aussi l'aspect que c'était un sujet qui était à la fois historique, parce que la bibliothèque du CIRA conserve pas mal d'archives et de textes relativement anciens, depuis les origines du mouvement anarchiste à la fin du 19e, et que c'est un moyen d'à la fois parler de cet aspect historique et de parler de pratiques actuelles, parce que comme tu le disais Luigi, il y a pas mal de groupes actuellement qui fonctionnent en refusant de se mettre en avant individuellement, d'en tirer des avantages personnels, mais sans forcément se définir en tant que personne qui refuse de parvenir. Et c'était un peu mettre des mots sur ces attitudes.
Mais ce qui est quand même intéressant, c'est quand même c'est un débat qui était mené beaucoup par le mouvement ouvrier, par les syndicats, par des gens qui, des fois, ne voulaient... Enfin, il y a eu quand même des tendances par rapport aux intellectuels. Il y a toute une discussion, quand même, entre le mouvement ouvrier qui refuse, à quelque part, d'être trop influencé par des intellectuels. Toute cette discussion est extrêmement intéressante. Et puis, elle fait partie, quand même, de l'idée anarchiste. Donc, quelques idées pour un petit peu sortir juste des généralités. Je trouve intéressant de parler de ce débat, quand même, important.
Alors, peut-être pour commencer, la personne qui a formulé la première fois cette notion du refus de parvenir, c'est Albert Thierry, qui est un enseignant au début du siècle en France, proche du syndicalisme révolutionnaire, et dont la phrase qui est un peu restée est la suivante: refuser de parvenir, ce n'est ni refuser d'agir ni refuser de vivre, c'est refuser d'agir et de vivre pour soi et aux fins de soi. Donc dès la base, c'était pas un refus de l'action ou une mise en retrait individuelle ou monastique ou je sais pas quoi, c'était vraiment un engagement collectif, c'était tourné vers un engagement collectif et le refus du bénéfice personnel, c'est ça qui était important. Et donc Albert Thierry, c'était un élève très doué, qui aurait pu finir prof d'université s'il avait choisi de le faire, mais qui, par fidélité à ses origines ouvrières, a préféré devenir prof de primaire à la campagne, avec des élèves tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun, justement par refus de trahir la classe ouvrière, qui était un thème dont on pouvait vraiment se revendiquer à l'époque, et qui avait une vraie vie autonome, un peu en dehors de la culture bourgeoise, aussi parce que c'était impossible de franchir cette barrière, en fait, que les élèves, les gosses d'ouvriers, n'allait jamais finir prof d'uni ou jamais avoir de progression sociale. Quoi.
Mais au sein du mouvement ouvrier, c'est quand même intéressant, c'est qu'il y a une peur de l'institutionnalisation. Je veux dire, même par rapport à des gens qui deviennent permanents syndicaux, il y a toute une base syndicaliste qui, je pense, est caractéristique quand même du mouvement anarchiste par rapport à peut-être le mouvement communiste qui était quand même différent, qui acceptait quand même qu'il y ait une avant-garde. Donc je trouve que c'est quand même intéressant par rapport à tout ce qui se passe actuellement, qui est quand même cette notion-là qui est très forte.
D'ailleurs... Je vais lire une citation à ce propos sur le syndicalisme révolutionnaire par rapport au syndicalisme bolchevisant, disons. C'est une citation qui date de 1929 et qui est tirée de la révolution prolétarienne. Le syndicalisme révolutionnaire admettait le fonctionnarisme syndical, mais il attendait que ses fonctionnaires, que ses chefs, vivent la même vie que les ouvriers de leur corporation et qu'ils plongent à l'usine après un temps de fonctionnarisme syndical. C'est de lui qu'est sorti le refus de parvenir, comme c'est du communisme qu'est partie cette ruée vers les postes de généraux, de commandants, adjudants de l'armée ouvrière, cette ruée vers les postes à venir de commissaires du peuple.
Mais vous êtes, par rapport à l'évolution justement du mouvement syndicaliste, est-ce que vous pensez que l'institutionnalisation de certains postes est négative pour le mouvement ouvrier, ou comment vous situez-vous en tant que... anarchiste actuel, mais enfin, que faisons partie peut-être du mouvement anarchiste.
C'est un vaste débat qui a été mené plutôt dans les années 30, au moment où il y avait encore un enjeu, parce qu'il y avait encore un vrai syndicalisme autonome qui existait. Peut-être que maintenant, ça paraît difficile à entendre pour la plupart des syndicalistes, parce que quand on dit syndicaliste, on pense à un professionnel, en fait, qui a fait, je sais pas, des études de Sciences Po, puis qui s'est fait embaucher pour aller porter la bonne parole aux maçons, ou essayer de faire du chiffre, de faire le plus possible de membres pour pouvoir dire... Pour que leur parlementaire PS puisse dire nous lançons une initiative avec une IA au niveau fédéral, en fait. Et c'est plus ça qu'on entend actuellement. Et le syndicalisme de terrain, comme association d'hommes qui se mettent ensemble, ou d'hommes ou de femmes évidemment, de gens qui se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, c'est un peu moins le cas. Maintenant, c'est une espèce de. Enfin, peut-être majoritairement une espèce d'assurance juridique populaire, plus que vraiment un mouvement militant, on a l'impression, même si c'est perçu par la droite majoritaire en Suisse comme encore dangereux.
Bon, alors vous avez certainement entendu beaucoup de ces répliques pendant les cycles de conférences que vous avez fait, et puis vous avez ensuite décidé d'élaborer ce recueil. Quels ont été les choix pour présenter au mieux cette idée, Lorenzo?
Alors,
quels ont été les choix pour élaborer cette idée d'écriture d'un recueil?
Donc, après le cycle de conférences qui a eu lieu en 2013-2014, qui a suscité pas mal d'enthousiasme, il y a eu l'envie de mettre sur papier en fait, certains des propos ou certaines des idées. Donc, on a fait un appel à contribution qui était assez large, où il n'y avait pas forcément une forme prédéfinie. Donc, ça pouvait être un interview, un article de fond, un dessin même, ou juste une BD ou quelque chose comme ça. On a eu pas mal de retours. Il a fallu après faire des va-et-vient, discuter un petit peu avec les collectifs, faire des corrections. Et puis finalement, on arrive à... Ça nous semblait assez cohérent d'avoir une structure, donc ce que vous pouvez retrouver dans le bouquin en elle-même. Donc une première partie qui est d'abord historique, avec des articles de fond, signés soit d'individus, soit de groupes. Et ensuite, c'est un peu des pratiques actuelles. Mmh. Donc voilà, là on a différentes contributions, soit il y a un collectif de photographie, il y a un collectif d'architecture.
Et pour vous, c'est le recueil de tous ces collectifs, puis mélangé avec cette question historique jusqu'à une évolution qui fait la richesse de votre ouvrage?
Oui. Oui, c'est bon. L'histoire, c'est la définition du concept. Certaines personnes qui ont amené beaucoup d'idées un peu dans ce sens-là, ça c'est très important. Mais ce qui nous semblait aussi important, c'était de mettre en valeur des démarches actuelles.
On, On pourrait dire aussi que ces différentes formes correspondent à différentes habiletés des personnes qui voulaient contribuer à ce recueil. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise à se mettre en avant ou à prendre la parole en public ou même à prendre la plume, en fait. Et c'est pour ça qu'on constate dans ce recueil des textes d'abord plutôt théoriques et historiques, de forme plutôt académique, et dans la deuxième partie du recueil, plutôt des textes composés, des interviews, etc., où on a été plutôt proactif, où c'est nous qui avons démarché les différents
collectifs. Donc faciliter l'expression de plus de monde possible, qu'on soit une idée anarchiste, c'est-à-dire que tout le monde, en principe, puisse s'exprimer. Yeah. Bon, après, on voit qu'il y a quand même des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, mais je crois que c'est vrai que ça reflète quand même le débat, puis les enjeux, parce qu'en fait, actuellement, les enjeux pour vous de cette notion-là, où elles existent, parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux citoyens, que ce soit Podemos, Syriza, enfin... Les Nuits Debout, après, bon, il y a différentes influences, hein, parce que comme chaque fois dans ces mouvements, tout le monde y participe, et il y a des gens qui ont des antécédents, qui ont lu des bouquins, enfin, qui ont des pratiques. Mais quel est le rôle, vous pensez, maintenant, du mouvement anarchiste par rapport à ces nouveaux mouvements ? Enfin, le rôle du mouvement anarchiste, c'est-à-dire la place que peut prendre, la place que vous pouvez prendre en tant que militant, la place que quand on a ces idées-là, comment elles sont écoutées par rapport à un renouveau, justement, par rapport aux partis, etc. Enfin, c'est un autre type d'organisation qui est de nouveau préconisée. Et comment vous voyez, en fait, cette évolution-là ?
Ouais, en tout cas, concernant les deux premiers mouvements que tu as évoqués, il me semble que on peut se demander s'ils sont vraiment dans cette logique-là du refuser de parvenir ou au contraire s'ils sont entrés plutôt dans des dynamiques d'institutionnalisation et de prise de pouvoir. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Ben, moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai l'impression que Podemos et Syriza, on a vu que c'est des mouvements qui partaient de mouvements de base, qui n'étaient pas forcément organisés en partie, et que c'est un peu une tentative d'institutionnaliser des mouvements qui, à la base, n'avaient pas volonté d'être représentés par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. C'était des occupations de place avec des assemblées qui délibéraient, qui faisaient des actions, qui organisaient des occupations, qui empêchaient des expulsions, par exemple en Espagne, ce genre de choses. Et maintenant, on voit très bien Podemos est devenu un parti. Ils ont pris de la force avec leur capital sympathie qu'ils avaient par le lien avec le 15 de Mayo, ce qu'on a appelé les indignés par ici. Ils essayent de récupérer maintenant les résultats de ce mouvement en force électorale. Ils sont prêts à tout pour ça. Et maintenant, on voit bien qu'ils ont l'espoir d'être majoritaires, donc faire une coalition avec le PS, puis qu'ils draguent de plus en plus large,
ce qui est pas tout
qu'ils
à
mettent
fait
de l'eau dans leur vin.
Le fait avec les dernières élections. Hmm? Ce qui n'est pas tout à fait le fait avec ces dernières élections de ce week-end.
Ah ouais, j'ai même pas vu le résultat, en fait.
C'est plutôt la droite qui est repassée, donc c'est intéressant de voir. C'est comme mouvement qui s'institutionnalise.
Alors prenons l'exemple de Syriza, où c'est l'inverse, où la gauche dite radicale a un résultat tout à fait majoritaire, a pris le pouvoir, et on voit le résultat, en fait, ils ont dû se plier sur absolument tout. Donc en fait, c'est assez vite démontré que même au niveau tactique, ça fonctionne pas, en fait. Sans parler de toutes les trahisons qu'il a fallu avaler et toutes les couleuvres qu'il a fallu bouffer pour les militants de ces groupes-là, quoi.
Peut-être pour revenir à une sorte de contexte historique, toujours en rapport avec cette institutionnalisation-là des organisations politiques, j'aimerais lire une citation d'Élisée Reclus qui a été publiée en 1878 dans un journal genevois qui s'appelle Le Travailleur, revue socialiste révolutionnaire. « Dès que le révolutionnaire est arrivé, dès qu'il s'est casé dans une niche gouvernementale, il cesse naturellement d'être révolutionnaire pour se faire conservateur. Cela est fatal. » De défenseur de l'opprimé, il se change à son tour en oppresseur. Nous n'avons point à citer de nom propre. L'histoire contemporaine l'écrit. Mais comment pourrait-il en être autrement ? C'est la place qui fait l'homme. C'est l'ensemble de la machine qui donne leurs diverses fonctions aux rouages. Et ceux-ci doivent s'y adapter. Ainsi que l'a dit depuis longtemps un célèbre diplomate, les intérêts des gouvernants sont toujours absolument contraires à ceux des gouvernés. Qui se fait gouvernant se fait en conséquence ennemi du peuple.
Donc le débat se poursuit, mais c'est quand même important, pour moi je trouve quand même important que ces mouvements existent, et c'est vrai que maintenant c'est peut-être plus des mouvements encore plus de base, parce qu'évidemment il y a une certaine institutionnalisation, mais comment voyez-vous un petit peu ces prochaines luttes qui sont pas terminées, qui se poursuivent, etc. Et vous avez une place, et ce livre a aussi une place dans le débat.
Je pense qu'il a une place, puis qu'il y a vraiment l'envie aussi de jeter ce mot dans le débat, de le poser, d'en faire peut-être une espèce de bannière sous laquelle plein de gens qui sont un peu dégoûtés par comment fonctionne la politique institutionnelle, ou plein de gens qui ont des pratiques de refus, qui veulent pas devenir chef au boulot, qui veulent pas écraser les autres dans leurs activités, qui veulent pas se mettre en concurrence en permanence, puissent se dire « Ah, mais je suis pas seul dans mon coin, et c'est pas mon caractère ou mon tempérament, c'est un refus de ce pouvoir qu'on nous impose, et c'est un refus de cette mise en concurrence généralisée que la société libérale dans laquelle on vit valorise tellement. » Et de se dire que ça peut être une... quelque chose sur lequel on peut se retrouver et on peut peut-être avoir des complicités avec d'autres gens grâce à ces reconnaissances-là.
C'est peut-être une première pierre à l'édifice. Si quelqu'un, admettons, j'imagine que vous avez peut-être préparé le cas, des personnes lisent votre ouvrage et se disent après « Ah bah tiens, génial, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de rajouter des choses. » Est-ce que vous pouvez éventuellement en éditer un deuxième volume ?
Disons que le processus d'élaboration de ce recueil a été très long et laborieux, en fait. Et je sais pas si on est...
Donc vous êtes dégoûté, vous allez pas faire un deuxième, c'est
bon.
Je pense qu'on encouragera les gens
à le faire eux-mêmes, quoi, ouais. En fait, à se dire, ok, t'es capable autant que nous de le faire, nous on n'est pas experts de ce domaine, c'est juste que ça nous intéressait, on a commencé à creuser un peu, mais on n'est pas du tout experts, on n'a pas fait de thèse là-dessus, on n'a pas de titre à parler différent que n'importe quelle personne qui s'y intéresse.
Oui, ben voilà, je crois qu'on a fait une bonne... Oui, Jean-Luc ?
Oui, mais moi je pense que, pour ma part, je vois que ouais, c'est un sujet qui vaut la peine d'être repris, donc
oui.
Volontiers de vous réinviter peut-être pour la suite d'un débat par rapport peut-être aux expériences à Lausanne qui peuvent exister. Donc je trouve qu'on a, vu un panorama un peu général de cette idée, on peut y parvenir, et volontiers qu'on vous réinvitera... peut-être qu'en septembre, là, on va Radio Django, c'est terminé pendant 2 mois, mais volontiers de vous inviter.
Enfin, je dirais encore une fois, on a encore une émission la semaine prochaine.
J'ai peut-être donné une erreur, une information fausse, mais voilà, disons qu'il y aura moins d'émissions du Rolette.
Oui,
mais volontiers de vous inviter pour aller peut-être plus loin dans la discussion.
On aura de quoi approfondir un petit peu ce grand sujet. On remercie en tout cas Gabi, Luigi et Lorenzo d'être venus nous parler ce soir de cet ouvrage qui est orange, qu'on voit qui flash, hein. Refuser de parvenir, idées et pratiques. Oui, quelque chose à rajouter ?
Donc, si vous voulez acquérir l'ouvrage ou bien l'offrir à des amis, vous pouvez soit vous déplacer jusqu'à Basta, voilà, juste en dessus de la plage Chaudron, ou soit nos routes de visite au CIRA, où il est aussi disponible.
Voilà, et puis dire encore que ce livre a été coordonné par vous, le CIRA, le Centre International de Recherche sur l'Anarchisme, et qu'il est publié aux éditions NADA. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, messieurs, et puis merci à Jean-Luc d'être préparé
ce sujet. Juste une chose, si vous permettez, pour ceux ou celles qui ne peuvent pas se déplacer...
Vous l'envoyez par la poste.
Voilà, on l'envoie par la poste, donc sur le site internet, là, vous pouvez... nous contacter et puis on vous l'envoie.
Bon, et puis si vous pouvez ni vous déplacer et puis vous n'avez pas de papier sous la main, vous pouvez réécouter cette chronique sur notre site www.django.fm.